Mais bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, un épisode un petit peu spécial. Je pense que vous avez pu voir le titre de l'épisode dans votre appli de podcast normalement. Pas d'invité cette semaine. J'ai mal géré mon timing pour les invitations. Il y a déjà des rendez-vous prévus pour les semaines à venir. Je voulais pas vous laisser sans rien cette semaine. Parce que déjà, je me connais un peu. Je sais que c'est une pente glissante. Dès que je fais une pause dans la publication des épisodes, c'est une pause qui peut vite se transformer en 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, et puis des plombes comme ça. Donc je voulais éviter de tomber là-dedans, et je me disais que c'était l'occasion de faire un peu le point sur le podcast. Ça fait déjà 3 ans, et 3 ans et 2 mois que j'ai commencé 70 minutes avec. Je voulais parler un petit peu des moments forts, de faire un peu le passer un peu tout ça en revue, les points forts, les points faibles, les choses que j'aimerais faire à l'avenir, etc. Du coup, si vous écoutez 70 minutes avec, principalement pour les intervenants de qualité que j'essaye de réunir ici, et pour mes interviews, et que ça vous intéresse relativement peu d'entendre Guillaume Acheter raconter sa vie, il n'y a pas de souci, vous pouvez zapper cet épisode sans vous sentir coupable. Et si ça vous intéresse un peu plus, aujourd'hui, je vais parler, par exemple, des rencontres qui m'ont le plus marqué, des invités que j'ai pu éventuellement regretter, parler d'autisme, parler de troubles de l'attention, parler de mon diabète, parler de ma situation personnelle, mes privilèges vis-à-vis de... Voilà ce qui me permet de réaliser ce podcast. La façon dont je mène mes interviews, mes critères pour sélectionner les invités, etc. Et surtout, un nouveau projet que je vais lancer ici à Bruxelles et auquel vous êtes tous et toutes invités. Je vous en parle davantage dans quelques instants. Donc, je vais essayer de tenir tout seul pendant 70 minutes. Je pense que je n'ai jamais fait ça encore. C'est très dur pour moi. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir ça tout seul. Mais en même temps, c'est vrai que celles et ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps savent que je suis autiste. Et un truc qu'on dit, souvent sur les camarades autistes, c'est que quand on nous lance sur des sujets qui nous fascinent, qui nous passionnent, on est lancé, quoi. On peut monologuer pendant les plombes. Donc je vais essayer de faire ça. Je vous ai proposé sur les réseaux sociaux, un peu à la dernière minute, c'était hier, mercredi, je vous ai proposé de m'envoyer des questions, si vous en aviez. Donc j'ai réuni tout ça, j'ai sélectionné celles qui me plaisaient le plus. Beaucoup de questions qui revenaient, questions hyper classiques de quels étaient tes invités préférés, qui est-ce que tu aimerais recevoir, pourquoi est-ce que tu fais des podcasts. Donc des questions en fait, auxquelles j'avais déjà pu répondre en partie il y a 2 ans, puisqu'à la fin de la première année, en août ou en septembre, je m'étais réuni avec un auditeur, Julien, qui écoute sans doute cet épisode aussi. Salut Julien. Et on avait fait exactement un peu ça, quoi, un peu cet exercice de faire le point sur une année de podcast à ce moment-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que les réponses ont pas mal changé dans ce qui me drive, dans ce que j'aimerais faire, dans ce qui me bloque. Donc voilà, je vais pouvoir de nouveau répondre à ces questions. 3 ans de podcast, que dire? Un truc qui est déjà assez particulier avec les podcasts, c'est que c'est un médium, je ne vais pas dire de niche, parce qu'il y a des podcasts qui cartonnent absolument tout. Je ne sais pas si je pense en France à des choses comme La Poudre ou des choses comme ça. Ce sont des podcasts qui ont des audiences absolument monumentales. Donc, je ne vais pas dire que le podcast est un médium de niche, mais il y a quand même ce truc de... Je me souviens que, par exemple, je parlais à une personne qui fait du RP, des relations de presse pour les maisons d'édition ici en Belgique. Et la première fois que je l'ai rencontrée, elle s'intéressait un peu à ce que c'était 70 minutes avec. Et j'ai dû lui expliquer comment ça s'écoutait. Et alors, j'ai dû lui montrer, c'est l'application... sur ton iPhone, et il faut taper 70 minutes avec, et il faut s'abonner, tout ça. Donc, c'est pas le truc le plus grand public. Si je demande à, je sais pas moi, à une tante ou à un cousin ce qu'il écoute comme ce qu'il ou elle écoute comme podcast, ben tout à fait, enfin il est plus que probable que la personne me réponde que bah non, elle écoute rien comme podcast, elle ne connaît pas très bien, voilà. Et donc, quand je réfléchis un peu en termes de l'audience que je touche, donc, qui a petit à petit augmenté sur ces 3 ans que je fais des podcasts, il y a toute une série d'obstacles de pourquoi est-ce que mon podcast n'est pas un succès planétaire qui touche des centaines de milliers de gens. À commencer donc par le fait que c'est pas forcément le médium le plus... Voilà, les gens ne sont pas forcément hyper familiers avec ça. Donc, c'est un premier facteur important. Deuxième chose, c'est un podcast. Je me souviens quand j'ai lancé le podcast, j'avais mis dans la catégorie iTunes de technologie. Parce que mon but, c'était, ah, on va faire rencontrer technologie et société. On va parler. Et alors, le premier sujet qu'on a abordé, c'était la question de. Tiens, pourquoi est-ce qu'il y a très très peu de femmes dans le secteur informatique, en particulier en Belgique? J'avais interviewé pour ça Alexandre Decroix. J'avais interviewé Isabelle Collet, qui est méga référence sur ce sujet. Interface 3, des choses comme ça. Ou encore, la question des startups en Belgique avec Pierre-François Levens. Voilà. Et assez vite, j'ai complètement bifurqué de tout ça. Et voilà, je me souviens qu'au septième épisode, on n'était plus là-dedans et je parlais avec Dan Gagnon de stand-up et d'humour. Donc voilà, l'angle a pas mal changé. Aujourd'hui, c'est donc, je vous apprends rien, un podcast qui parle de sujets de société de manière générale. Et voilà, on peut dire que c'est un podcast politique. Et pour cette raison, c'est justement pas un podcast qui va toucher un public absolument énorme. Après, voilà, je donnais l'exemple tout à l'heure de, par exemple, La Poudre en France, qui est aussi un podcast qui parle de sujets de société, de politique, en particulier liés aux questions de genre. Donc, c'est tout à fait possible de faire un podcast qui parle de politique et qui cartonne, mais pense que c'est déjà plus dur que voilà, les podcasts qui cartonnent absolument tout. Par exemple, aux États-Unis, ça va être des trucs avec. Conan O'Brien, plus axé sur des gens du show business, oui, la comédie, l'humour, tout ça. Voilà, c'est forcément. Ça touche un public un tout petit, enfin, je dirais même nettement plus restreint. Et enfin, le truc supplémentaire à tout ça, c'est que. Mais j'ai tendance à l'oublier, mais quand on regarde sur une carte de l'Europe, la taille de la Belgique francophone, mais c'est absolument minuscule, en fait. Et c'est vrai que j'ai tendance, et ça c'est un choix assumé, à privilégier des invités plutôt belgo-belges. Voilà, le podcast a commencé avec Alexandre de Croo, dans les souvenirs forts des personnes que j'ai reçues. Voilà, je me souviens par exemple de l'épisode avec François Jomène qui était absolument génial, l'épisode avec Marie Pelletier, Florence Henneau aussi, voilà, des figures plutôt connues en Belgique. Des figures politiques, Zeka Kattabi et ainsi de suite, des gens absolument inconnus au bataillon. Je pense à voilà, Olivier Klein, qui était une super interview au début de la pandémie. Donc des profils plutôt belges. Et c'est un choix assumé de ma part, aussi parce que ça vient sans doute en grande partie d'une frustration du fait qu'en Belgique, on a nos médias belges, mais on est quand même. Enfin, aujourd'hui, plus personne ne regarde la télé, mais du temps où je regardais la télé, on était quand même très abreuvé des médias français, même encore aujourd'hui sur Twitter, etc. Donc, c'est une volonté aussi de proposer quelque chose de belge qui s'assume comme tel. Et voilà, je suis pas forcément intéressé. On m'a déjà proposé, on m'a déjà demandé si je voulais interviewer des représentants politiciens français, etc. Par exemple, il y a peu, j'ai pu recevoir Alice Coffin qui siège au conseil de la ville de Paris. Donc ça m'arrive, mais ça reste minoritaire parmi je crois, 51 ou 52 épisodes que j'ai publiés à ce jour. Les invités français restent minoritaires et c'est un choix. Des souvenirs absolument formidables parmi les invités, qu'ils soient belges ou français, j'en reviendrai là-dessus plus tard, mais c'est un choix assumé comme tel. Et donc, pour toutes ces raisons, Medium Podcast, qui parle pas forcément à tout le monde, politique qui refroidit beaucoup de gens, et oui, et enfin, podcast politique centré sur la Belgique, donc là, on est vraiment... on resserre très fort la vis et forcément le public qu'on peut atteindre n'est pas le plus incroyable du monde. Cela dit, je suis très content des audiences. Il y a peu, j'ai eu le plaisir de recevoir justement un invité français, Jean-Marc Jancovici, et le podcast a fait plus de 50 000 écoutes, plus de 50 000 écoutes sur toutes les plateformes confondues. Donc c'est nettement plus que les audiences auxquelles on est habitué, par exemple quand j'invite un chercheur français ou voilà un Renaud Mas ou quand je fais l'épisode avec des politiciens belges finalement, les Aka Katabi ça, ou les Gilles Van Den Burg ou les Alexander De Croo, ça parle pas à un public plus large qui serait voilà, un public francophone au global, que ce soit en Suisse, en France ou au Québec. Donc c'est forcément, vous m'aurez compris, un public plus restreint. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Un truc qui a été rapidement assez clair, c'est qu'un très bon moyen de... Dans la Startup Nation, on dirait un très bon channel d'acquisition pour trouver des nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices, c'est justement d'apparaître dans d'autres podcasts. Et donc, il y a de nombreuses personnes parmi vous qui connaissent le podcast parce que l'équipe de 5 heures cinéma a donné une certaine visibilité au truc. Donc justement, là, on touche à un public qui écoute régulièrement des podcasts et qui sont, a priori, belges dans l'écrasante majorité. Un autre cas, c'était quand j'étais invité dans le rendez-vous tech de Patrick Béja. Donc ça, c'est clairement un moyen beaucoup plus efficace que, je sais pas moi, compter sur les réseaux sociaux ou sur ce genre de choses pour avoir de la visibilité. Et voilà, on peut pas dire qu'il y ait énormément de... C'est pas comme s'il y avait un podcast de politique belge qui cartonne absolument tout et dans lequel je peux me débrouiller pour me faire inviter, pour avoir de la visibilité, etc. Bref, donc c'est, vous l'aurez compris, assez compliqué d'avoir des audiences assez folles. Donc je n'ai pas des audiences complètement dingues, mais les audiences ont augmenté petit à petit, doucement, mais sûrement, sur ces 3 ans déjà. Et franchement, c'est un énorme plaisir. Je suis véritablement hyper reconnaissant pour tous les messages que vous avez pu m'adresser à la sortie de chaque épisode, les retours, les questions, les feedbacks, etc. C'est presque toujours très positif et très chaleureux, et ça me touche toujours très fort. Un autre point dont je voulais parler, c'était quelque chose qui a finalement assez peu de visibilité, dont vous n'avez pas forcément conscience, mais c'est le nombre de choses qu'il faut mettre en place, ne serait-ce que pour publier un épisode, toutes les étapes par lesquelles ça passe, les compétences que ça demande, qui sont assez particulières. Donc pour reprendre un peu les choses à la base, je vais commencer par m'intéresser à un sujet en particulier. Donc j'estime que pour faire un bon épisode, il faut la combinaison de 3 choses. C'est un ou une invitée de qualité. Donc ça, parfois, ça peut être assez facile à trouver si l'invité a déjà une visibilité dans les médias, si je peux déjà remarquer qu'il ou elle est charismatique, qu'elle est douée pour parler dans un micro. C'est pas toujours le cas. Il y a des invités que j'ai pu recevoir et qui n'avaient jamais fait ça auparavant. Et là, c'est toujours un peu Il faut tenter sa chance, c'est tout. Donc, un ou une intervenante de qualité. Ensuite, un sujet qui me captive. Donc, j'essaie de trouver des sujets. Je me souviens que Julien, il y a 2 ans, avait trouvé le mot du bug dans la matrice. C'est une façon intéressante de résumer le truc. C'est-à-dire que j'essaie d'aller vers des sujets qui soulève finalement quelque chose d'assez arbitraire, un truc assez quelque chose qu'on remet pas forcément en question dans nos sociétés, et je vais essayer de m'y intéresser, d'attaquer ce sujet-là par un angle relativement, je dirais, je sais pas, inhabituel quoi. Donc je pense par exemple à, ça peut être énormément de choses hein. Si je pense par exemple à l'épisode qu'on avait fait avec François Jomène il y a 1 an. La question des migrations est une question qui est trustée complètement par la xénophobie, les Éric Zemmour en France, dont les questions, c'est ce que François Jomène expliquait dans le podcast, c'est qu'à partir du moment où on accepte, qu'on considère comme légitime les questions posées par l'extrême droite de voilà, la criminalité qui viendrait de l'immigration, etc. Voilà, à partir du moment où on accepte ces prémices-là, mais on capitule finalement vis-à-vis voilà, le discours qui est amené donc par les Éric Zemmour, les Vlaams Belang, et ainsi de suite. Et donc, face à ce sujet qui est la xénophobie, la politique migratoire, et ainsi de suite, j'essaye d'amener un intervenant donc de qualité, en l'occurrence un François Jomène, qui va amener un angle inhabituel, un peu, je ne sais pas si on peut dire subversif, mais qui va renverser les idées qu'on entend partout. Alors quand je dis ça, allez, je veux dire, je ne suis pas non plus dans une situation où je vais inviter les conspirationnistes qui vont expliquer que le vaccin est en dangereux, que Bill Gates nous trompe ou je ne sais quoi. Donc ce n'est pas le but. Donc il y a forcément une sélection qui est faite sur base des intervenants que je trouve de qualité. Bon, ça, c'est une ligne éditoriale, ça se construit comme ça. Un autre exemple, ça pourrait être la schizophrénie, par exemple. C'était il y a 2 ans. J'avais interviewé Vincent Dubois, qui est psychiatre ici à Bruxelles, et je m'étais parti du constat que. Mais le mot schizophrénie, on l'entend tout le temps partout. C'est presque devenu une punchline. Hein. Quand on est en désaccord avec quelqu'un, on va dire « Oh, c'est une position complètement schizophrène, qui se contredit elle-même, oh, c'est n'importe quoi, tout ça. » Et en fait, je me suis juste rendu compte que ce mot, on l'entend tout le temps partout. On est nombreux à l'employer. Et en fait, on ne sait pas ce que c'est. Si je vous demande. Il y en a certainement parmi vous qui ont écouté cet épisode quand je l'ai publié, mais si je demande à celles et ceux qui ne l'ont pas écouté ce que c'est la schizophrénie de me donner la définition, je vais certainement entendre un truc du style que c'est avoir une deuxième personnalité, une voix qui nous parle dans sa tête, etc. Donc non, c'est pas ça. Donc le but, c'est vraiment, on part de cette observation qui est, ok, tout le monde emploie ce mot sans savoir ce que ça veut dire, on va non seulement rectifier le tir en proposant donc quelque chose, un discours un peu plus factuel de quelqu'un dont seule expertise, mais aussi en profiter pour montrer, mais tiens, mais il y a un peu de. Qu'est-ce que c'est que ce truc implicite qui est finalement une forme de psychophobie, qui est bon, il y a des gens qui ont cette maladie-là, et ça devient une punchline. Donc c'était le cas aussi de. Par exemple, l'autisme, et c'était la prémisse des épisodes que j'ai fait sur ce sujet, c'était, bon, c'est aussi une punchline. Le mot autiste est perçu comme étant péjoratif, c'est une insulte dans certains cas. Et c'était, bon, ok, voilà la situation, montrons un peu ce qu'il en est vraiment et qu'est-ce que ça dit sur notre société, parlons de la neurodiversité, etc. Donc c'est l'idée de partir d'une situation qui. M'interroge, me pose question, pas forcément qu'il me pose problème, même si ça peut être le cas, et d'en profiter pour, idéalement, dans les épisodes que je préfère, révéler des choses voilà, nos cultures, nos sociétés, les différents systèmes qui entrent en jeu. Et donc, voilà, bon, c'est pas facile forcément de trouver la bonne combinaison. Là, je réponds à une question qu'on m'avait envoyée pour cet épisode, qui était, mais finalement, quels sont mes critères pour sélectionner un ou une invitée? Donc, je disais, il faut que la personne soit un minimum charismatique, un minimum à l'aise, que... pas forcément qu'elle soit connue, qu'elle ait une grande visibilité, même si forcément c'est toujours bien. Enfin, l'épisode avec Jean-Marc Jancovici, par exemple, a clairement bénéficié du fait que c'est une rockstar très très suivie en France. Mais donc voilà, un certain charisme, une certaine expertise, un profil qui me plaît, qui voilà, ça peut pas être quelqu'un qui va avoir un discours conspi, un discours complètement farfelu, qui va faire des accusations sur base de rien du tout. Donc je vais filtrer déjà sur base de ça. Ensuite, des thèmes, comme je le disais, qui vont toucher à un bug dans la matrice, un petit truc où on dit, tiens, il y a quelque chose d'arbitraire, quelque chose qui ne va pas ici. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et enfin, il faut que je trouve l'angle. Il faut, bon, comment est-ce que je fais en sorte de poser les bonnes questions à cet invité? Et ça, ça peut parfois être extrêmement bloquant. C'est pas forcément le plus facile. Donc, bon, il y a déjà cette première étape qui est la pré-production. C'est bon, quel est l'épisode que je veux faire, qui est-ce que je veux inviter et parler de quoi. Ensuite, une fois que c'est fait, mais il y a un truc tout bête, c'est l'email que je vais envoyer à la personne. Il faut que je trouve son adresse email. Et parfois, c'est un parcours du combattant. Et donc là, ça demande aussi. Certaines compétences, ça peut être juste avoir un bon réseau. Donc, par exemple, je me souviens que j'ai téléphoné pendant des mois et des mois à la maison d'édition d'Alice Coffin pour l'inviter, et à chaque fois on me disait « Oh non, je lui ai envoyé un email à votre sujet, mais j'ai pas eu de réponse, etc. » Enfin, bref, très clairement, Alice avait, je sais pas, un filtre dans sa boîte mail pour pas avoir les emails de sa maison d'édition. Et donc là, c'est voilà, il faut avoir le bon réseau, il faut trouver le numéro de téléphone d'une manière un peu détournée. Donc ça c'est un exemple, c'est pas vraiment une compétence en soi, mais je me souviens par exemple que Thierry Kertz, donc le directeur de Google Belgique, je me souviens que je m'étais amusé à récupérer l'adresse email qui avait été employée pour enregistrer le nom de domaine qu'il avait employé pour son livre. Donc voilà, pour les informaticiens qui nous écoutent, c'est tout con, hein. Ça s'appelle un Whois, pour trouver les infos sur la personne qui a enregistré le nom de domaine. Et donc sur base de ça, j'avais trouvé l'adresse directe de Thierry Kertz, et je l'avais envoyé pour l'inviter. Parfois, ne serait-ce qu'envoyer l'email d'invitation, ça peut demander quelques acrobaties, quelques compétences un peu farfelues pour y arriver. Ensuite, une fois que c'est fait, il y a tout le travail de préparation qui est souvent la lecture d'un livre, mais pas toujours. Enfin, c'est pas toujours possible. Il n'y a pas toujours un livre qui parle précisément du sujet dont on a envie de parler. Donc, ça va être beaucoup de documentation, de regarder des documentaires, lire des travaux de recherche, etc. Et ça, c'est très dur pour moi pour des raisons sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Et puis, il y a, au moment de l'interview en elle-même, que ce soit quand je le fais en distanciel avec Zencaster, un outil que j'aime beaucoup, ou bien en présentiel, il faut, en quelque sorte, des compétences, je dirais, d'ingénieur du son. Arriver à bien capter le son, pas avoir des problèmes par la suite. Ensuite, il vient le moment du montage, qui est aussi, voilà, un certain... J'ai eu l'occasion de donner des formations en montage, tellement c'est pas quelque chose de super simple à prendre en main pour tout le monde. Au moment du montage, moi, je fais beaucoup de montage. Je connais des collègues podcasteurs qui en font absolument pas, ou très très peu. Moi, c'est tout le contraire. Je retouche énormément les enregistrements des différentes interviews que j'ai pu réaliser. Donc ça va être des choses toutes bêtes, hein, comme évacuer les bruits de bouche, des choses comme ça, réduire les silences. J'ai tout particulièrement horreur des moments où on entend que j'ai très mal formulé ma question, et puis il y a un petit moment de silence où on sent que l'invité fait, oh, de, quoi ? Qu'est-ce que j'ai pas très bien compris ? Donc je vais, je m'en cache pas, hein, je vais retoucher tout ça pour que la question ait l'air fluide et très claire et que voilà, l'invité donne sa réponse immédiatement sans aucune confusion. Ensuite, après, une fois que tout le montage est fait, il y a la question de la distribution, de la plateforme de podcast qu'on va employer, le petit teaser vidéo que je mets sur les réseaux sociaux. Il dure 2 minutes, mais enfin, on ne se rend pas compte à quel point. Je crois que ça me met 1 heure pour faire ce petit truc de 2 minutes à chaque fois. Donc tout ça est vraiment extrêmement chronophage et surtout, ça demande des compétences assez variées. Donc il y a évidemment l'aspect journalistique, l'aspect de préparation, l'aspect de savoir mener une interview, l'aspect informatique pour, je disais, se débrouiller avec le montage, se débrouiller pour obtenir les adresses e-mail, les contacts, etc. Donc il y a vraiment plein de différentes disciplines qui s'emboîtent dans la création de ce podcast. Et vous êtes nombreux, nombreuses à être extrêmement généreux et très gentils. Enfin, on va en parler dans un instant, mais j'ai un immense syndrome de l'imposteur vis-à-vis de ça. Vous êtes nombreux à me dire que je mène très bien mes interviews, que je fais un super travail journalistique. Je suis toujours très touché quand vous me dites ça. Et c'est la raison pour laquelle on m'a proposé récemment de donner une formation dont ce qui s'appellerait une forme de cette discipline qui est le podcast journalistique, et d'expliquer quelque part mais comment je m'y prends, quelles sont mes techniques, et globalement voilà tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 3 années d'expérience. Et ça aura lieu à Bruxelles le 23 avril 2022 dans une salle qui s'appelle le Cosmos Studio. Donc c'est une initiative qui est lancée par les gens de comédien.be, pour ceux qui connaissent. Donc il y a toute une série d'ateliers, de formations qui vont être lancées sur cette nouvelle plateforme Cosmos Studio. Donc il y a par exemple l'ami Dan Gagnon qui va donner des cours de comédie. Et moi, donc, ce sera plutôt en matière de journalisme. Et voilà, de l'exercice de faire des interviews comme ça en one-to-one, dans un format voilà, qui est le mien, format podcast 70 minutes avec. Ce sera payant. Je mettrai le lien sur les réseaux sociaux quand il sera dispo, puisque ils sont un petit peu en retard chez Cosmos Studio pour mettre tout ça en ligne. Mais donc, ce sera un prix relativement accessible. Ce sera donc à Saint-Gilles, dans cette nouvelle salle de Cosmos Studio. Les places sont assez limitées. On parle d'une vingtaine de personnes max. On espère que tout ça sera compatible au Covid, hein, mais j'imagine que avec le port du masque, tout se passera bien. Et donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les semaines et les mois qui vont suivre. Ne tardez pas trop à vous inscrire. Je vais mettre le lien dès qu'il est dispo sur les réseaux sociaux. Et donc ça durera une journée. Ce sera plutôt technique, ça ira dans le détail. Il ne s'agira pas de faire quelque chose de très superficiel et très vague. Et finalement, on ressort de là en se disant « bon, j'ai rien appris ». Ça ira dans le détail. Ça peut se destiner aux personnes qui voudraient elles-mêmes réaliser des interviews comme j'en fais, mais ça peut aussi tout à fait, voilà, si vous êtes auditeur, auditrice de 70 minutes avec depuis maintenant quelques années et que vous vous demandez « tiens, mais je voudrais en savoir plus sur les coulisses, de comment il fait, etc. Voilà. » Mais ça, vous êtes tout à fait les bienvenus. Et forcément, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que mon premier réflexe dans ce genre de situation, c'est de me dire « mais est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça ?» Dans ce genre de cas, et c'est sans doute c'est la marque d'un privilège, hein, finalement, dans ce genre de cas, j'ai tendance à voir mon syndrome de l'imposteur et à faire en sorte d'outrepasser, de pas rester bloqué vis-à-vis de ça. Parce que voilà, bon, en l'occurrence, vous êtes nombreux, nombreuses à me féliciter pour la qualité de mon travail. Je ne sais pas si c'est mérité. Mais voilà, on va tenter ça. Et puis, ce sera aussi l'occasion de se voir en vrai. On m'a aussi fait la demande de savoir quand est-ce que j'allais lancer des meet-up, des rencontres avec les auditeurs en vrai. Bon, ce sera l'occasion. Bon, comme je vous le disais, ce sera payant, mais ce sera quand même une occasion sympa. J'espère que vous viendrez nombreux. Il y a, comme je le disais, un nombre maximum de personnes qui peuvent rentrer dans la salle, voilà, pour des raisons pratiques, des raisons Covid, et ainsi de suite. Mais à côté de ça, il y a aussi un nombre minimum d'inscriptions qui sont exigées. Donc, j'espère que, je le disais, vous serez nombreux. S'il n'y a pas assez d'inscriptions, pas assez de personnes intéressées, je le prendrai pas mal. Je pense que c'est une formation assez niche, hein, quand on parle de formation de podcast journalistique. C'est pas pour tout le monde, même si je le disais, c'est vraiment... C'est pas seulement pour les personnes qui désirent en faire leur activité. Ça peut aussi simplement être pour les fans de 70 minutes avec. Et donc, je le disais, ce sera à Saint-Gilles le 23 avril 2022. Et j'ai hâte de vous y rencontrer. Alors, les questions que vous m'avez envoyées. Première question, c'est quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué, qui nous a été envoyée par un auditeur anonyme. Donc, dans le cadre de ce podcast, évidemment, ça dépend si on parle du long terme ou du court terme. Sur du long terme, c'est sans doute l'épisode que j'ai fait il y a 3 ans avec Myriam Leroy, puisque donc, suite à cette rencontre, on est devenus amis. Elle me conseille régulièrement des invités à recevoir dans le podcast. Elle fait la promotion du podcast sur Instagram, tout ça. Donc, c'est une des rencontres préférées que j'ai pu faire dans ce podcast. Sur le long terme, donc, puisque je pense que l'interview en elle-même n'est pas mon meilleur souvenir. Je me rappelle de grosses bêtises que j'ai pu raconter vers la fin de l'épisode. Sur du plus court terme, donc une expérience qui était particulièrement marquante, puisque c'est la question, c'était sans doute celle de Olivia Gazalet. J'ai un truc, moi, c'est que souvent, à l'issue du podcast, au moment où j'appuie sur stop, je vois toutes les choses que j'aurais pu faire mieux, toutes les questions qui étaient mal posées, auxquelles j'aurais dû penser, etc. Et le souvenir que j'ai de l'interview avec Olivia Gazalet, c'était que justement, tout était très fluide. C'est l'épisode le plus long de tous, puisqu'il a duré 1h40, et c'est vraiment, il y a une... Ce que les Américains appellent « chemistry », c'est les atomes crochus, quoi. On s'entendait vachement bien, et à la fin de l'épisode, on se complimente, on a passé un tellement bon moment, c'était super chouette et tout. Donc je garde un très bon souvenir de cette rencontre-là. Ensuite, question classique que vous avez été plusieurs à me poser, c'est « Pourquoi est-ce que je fais un podcast ?» Donc ça, j'ai déjà raconté l'histoire, hein, mais donc à la base, c'était tout est parti de l'observation du fait que quand j'étais étudiant en informatique, je regardais la composition de l'auditoire, pour les Français qui nous écoutent, c'est l'amphi, et je voyais une centaine de personnes, et il y avait quoi, 5 filles, 4 filles, quelque chose comme ça, et je me posais la question de mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Aussi en partie parce que ça me frustrait, enfin, je trouvais ça dommage qu'on soit que entre mecs dans cet auditoire. Et donc, je me suis vraiment plongé au cœur de la question. J'ai fait des rencontres, j'ai fait plein d'interviews. Et c'était vraiment très stimulant, très enrichissant. Et c'est dans le cadre de toutes ces rencontres-là que j'ai rencontré Alexander De Croo, qui était à l'époque ministre de l'agenda numérique. Et qui a une préoccupation, voilà, chacun jugera de la sincérité de son propos ou de ses connaissances en la matière, mais il a une vraie préoccupation de la question de l'égalité homme-femme. Et donc, je lui ai envoyé un email pour lui parler spécifiquement de cette question, de tiens, pourquoi est-ce qu'il y a peu de femmes en informatique ? Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, en termes de chiffres, quand on regarde les stats de l'OCDE, la Belgique est dernière au monde, puisqu'on a seulement 7% de femmes parmi les diplômés en sciences informatiques. Alors que, je ne sais pas, si on va dans des pays comme le Maroc, l'Albanie, la Malaisie, etc., on se rapproche nettement des 50%. Donc c'est très intéressant de savoir un petit peu qu'est-ce qui explique ça. Et j'avais à l'époque donc fait cet article sur ce sujet. J'avais fait des rencontres, articles que je mettrai dans les liens de l'émission, puisque j'en suis très fier, c'est vraiment le plus que n'importe quel épisode de ce podcast. Cet article-là, c'est le truc dont je suis le travail dont je suis le plus fier. Ça m'a pris 6 mois pour l'écrire. Et donc, je rencontre Alexander De Croo dans ce cadre-là, et je me dis quand même, c'est une opportunité sur laquelle il faut que je capitalise, hein, pour ainsi dire. Et donc, j'ai demandé à Fanny Ruet de me prêter du matos pour enregistrer l'interview. Et donc, c'est vraiment parti de manière très... c'est du bricolage, quoi. Quand on entend le début de cet épisode 1, je le fais en anglais déjà parce que je ne sais pas très bien ce que je vais en faire. Je me dis, bon, Alexandre De Croo, il n'est pas tellement connu en Belgique francophone à ce moment-là. Il n'y avait même pas de titre pour le podcast, il n'y avait pas de format, c'était juste, voilà. Je me suis lancé. Donc j'ai fait ça une fois avec Alexandre De Croo, puis une deuxième fois avec Isabelle Collet, puis une troisième fois avec Interface 3. Et au bout de trois fois, je me suis quand même dit, ouais, j'aime bien. J'aime bien, c'est un exercice qui me plaît. Et puis j'ai réfléchi, voilà, comment j'allais l'héberger. Ben, Fanny avait justement une plateforme de podcast. J'ai réfléchi à comment j'allais nommer le podcast et j'ai fait n'importe quoi puisque je l'ai nommé 70 minutes avec, qui est le pire titre. L'expérience était très enrichissante, ça m'a rapidement plu. Et voilà, et c'est parti comme ça et j'ai fait une série de rencontres sur base de ça. Donc, par exemple, Olivia Gazalet, par exemple, Myriam Leroy. Ensuite, autre question. As-tu eu des invités que tu as regretté d'avoir eu? Pourquoi et les as-tu diffusés? Alors, le premier truc qui me vient en tête, c'est... je vais pas épiloguer là-dessus, mais il y avait une jeune figure de la RTBF qui devait avoir 21 ans à ce moment-là, que j'ai interviewé pour parler d'écologie. Et c'était en fait... il habitait près de Flagey dans un petit appartement avec quatre autres colocataires. Et donc on était dans son salon et comme ils sont tout pleins dans son appartement, il n'était pas tout seul dans son salon, il y avait un autre gars. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que la qualité des réponses de mon invité était assez décevante, puisque c'était quelqu'un qui reproduisait les éléments de langage de... la politique d'extrême gauche en France, enfin, à la limite, pas de souci pour occuper, pour tenir ce discours-là. Mais ce qui me frappait, c'est qu'il y avait vraiment ce côté très déjà entendu, quoi. Côté, il a regardé quelques vidéos sur Facebook et il me répète ce qu'il a entendu. Ça manquait de qualité, d'originalité. Je trouvais, j'étais pas super content. Et en plus, il y avait donc cet autre colloque dans le salon qui, à plusieurs reprises, nous a interrompus pour nous lâcher tout son discours anticapitaliste. Parce que je pensais naïvement que ça allait être une interview sur l'écologie politique. Mais en fait, c'était des gens qui étaient très, 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 très anticapitalistes. Et à la limite, encore une fois, pas de souci. Mais le seul truc, c'est que j'expliquais à ce gars qui était à l'autre bout du salon que nous, on avait des micros en main et qu'on nous entendait à l'enregistrement. Et que lui, on ne l'entendait pas du tout, du tout, du tout. Mais il nous a interrompu quand même quatre fois pour nous faire des longs, 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 longs discours anticapitalistes. Et bref, et au final, j'ai récupéré l'enregistrement et je trouvais ça archi nul. Donc, je ne l'ai pas publié. Donc, ça, c'était vraiment une interview ratée. Un autre exemple, mais celle-là, je l'ai publié, c'était Frédéric Martel, l'épisode 16, je crois, qui parlait donc de la question de l'homosexualité au Vatican, au sein de l'Église, chez les prêtres homosexuels, etc. Donc un truc, pour le coup, un sujet absolument fascinant et que je trouvais très intéressant. Et voilà, il a mené un travail extrêmement qualitatif à ce sujet, mais en interview, d'une part, il était au bout de sa vie, puisqu'il en avait fait... on était au fin de la journée presse-tour, il en avait fait au moins 20 des interviews avant la mienne. Et en plus de ça, il était vraiment sur les rails, il était habitué à ces cinq questions différentes qu'on lui posait et il avait ses réponses en 30 secondes, ce qui ne correspond pas du tout à ce que je fais dans 70 minutes avec. On a plutôt tendance à faire long et aller en profondeur, etc. Donc ça ne marchait pas du tout. Et un autre cas, c'était un autre invité que j'ai regretté, c'est un prof dans l'école où j'étais, quand j'étais ado. Je ne vais pas dire le nom de l'école, mais donc c'était une école très, très, très bourgeoise, très, très catholique, très, très, un peu élitiste. C'est le genre d'école où il y avait des longues, longues files quand il fallait faire la file pendant la nuit pour inscrire son enfant. Il y avait des très, très longues files pendant toute la nuit. Ce prof avait publié une tribune dans un journal où il expliquait finalement une certaine déception vis-à-vis de ce que de nombreux profs estimaient être leur métier aujourd'hui. Il se portait à faux par rapport à ça, il estimait qu'il fallait voir les choses autrement. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Ça peut-être être l'occasion d'avoir une série de regrets, de remettre en question cette façon d'enseigner. Parce que je n'étais pas particulièrement fan de mon expérience dans cette école, comme je le disais, très bourgeoise et très élitiste et très conservatrice. Et donc, je me disais, ah, mais ça va être cool, je vais pouvoir interviewer quelqu'un. Je n'avais pas eu ce prof. C'est un prof très connu à l'école, mais je ne l'avais jamais eu. Je me disais, ça va être cool de l'interviewer et de... Je vais dire cracher sur tout ça, mais remettre tout ça en question. Et voilà. Mais en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Il était tout le temps sur la défensive. Et je me souviens notamment qu'à un moment donné, je lui ai posé la question, tiens, mais qu'est-ce que c'est exactement une école catholique? Qu'est-ce que ça signifie, ce mot catholique, pour toi? Et il m'avait répondu, et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en gros, quand on pose une question et que la personne n'a pas du tout envie de répondre, alors que c'est une question un peu plus simple et pas spécialement choquante, je trouve. Bon, voilà, il y a des invités avec qui ça fonctionne moins qu'avec d'autres, et en l'occurrence, j'ai choisi de ne pas publier cet épisode-là. Autre question, on me demande si j'ai eu, en gros, des retours violents suite à des épisodes avec des sujets un peu plus touchy. Donc voilà, quand on me dit ça, je pense plutôt à des invités comme Rokaya Diallo, comme Alice Coffin, comme Zaka Katabi, comme Florence Henault ou comme l'épisode que j'ai pu enregistrer en septembre dernier au sujet de l'islamophobie. Alors oui, clairement, il y a eu des retours un peu plus violents. Encore une fois, il faut vraiment tempérer ça, puisque bon, je vois la violence que se prennent mes consoeurs journalistes femmes et les immondices qu'elles se prennent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas à plaindre en comparaison avec ça. Mais je me souviens effectivement que, donc pour l'anecdote, le podcast est donc sur toutes les grandes plateformes de podcast, mais il est aussi, j'ai un Raspberry Pi dans mon appartement qui va uploader automatiquement chaque épisode sur YouTube après l'apparition. Et de temps en temps, quelques fois par mois, je m'amuse à aller voir sur la chaîne YouTube, regarder un peu si j'ai reçu des commentaires ou des choses comme ça. Et je me souviens qu'un jour, quelques jours après la publication de cette interview avec Rokaya Diallo, je vois les commentaires les plus violents que j'ai jamais eu pour ce podcast. Donc, truc relativement classique, hein, où on explique que c'est une sorcière et que, en fait, elle se dit antiraciste, mais c'est elle la plus raciste de tous, etc. Enfin, des trucs. Mais bon, là je le présente de manière assez soft, mais c'était très violent et très, très hard dans la façon dont c'était exprimé. Un retour assez dur aussi suite à l'épisode d'Alice Coffin. Donc elle, il y avait eu tout un cirque parce qu'elle estimait que les autres candidats, donc qui n'étaient pas Sandrine Rousseau, ces candidats type Yannick Jadot et Delphine Bateau et autres, elle estimait que ce serait quand même vachement mieux si ils retiraient leur candidature et qu'ils laissaient cette candidature de Sandrine Rousseau qui n'a pas d'équivalent ailleurs sur l'horizon politique français. Ça a été assez mal reçu, ça a été très fort caricaturé par les gens sur France Inter, etc. En fait, le podcast a été cité déjà dans une chronique sur France Inter où donc ils ont pris un extrait, mais ils n'ont pas dit d'où ça venait. J'ai trouvé ça assez choquant et assez maladroit. Je trouve ça super nul même. Le podcast a été cité aussi dans l'Express et dans Le Canard Enchaîné. Et à chaque fois, c'est vraiment toujours ce discours qu'on entend tout le temps en France de « Oh, on peut plus rien dire » et « Oh, les féministes aujourd'hui, elles disent n'importe quoi, blablabla. » Et donc, ouais, j'ai eu aussi des commentaires assez violents sur Twitter. Il y en a eu aussi quelques-uns sur Zaka Katabi et sur l'épisode avec Florence Henault et Marie Pelletier. Je me souviens aussi que j'ai eu des retours particulièrement longs. J'avais précisé à la fin de l'épisode sur l'islamophobie que j'étais pas particulièrement intéressé par les retours, puisque finalement, l'idée, c'était pas tellement de dire ce qu'il faut penser ou l'avis qu'il faut avoir ou machin. C'était surtout que, bon, quand on parle des questions liées à l'islam, on entend surtout des mecs blancs très énervé, et on entend relativement peu des personnes directement concernées. Donc c'était le but de cet épisode. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dit, exprimé, je ne sais même plus très bien ce qui est exprimé, pour être tout à fait honnête, mais c'est pas parce que je publie un épisode comme celui-là que forcément je cautionne l'entièreté de tout ce qui a pu être dit. Et je précisais à la fin de cet épisode que, bon, ça m'intéresse pas spécialement d'avoir les retours des auditeurs si c'est juste pour dire qu'ils sont très agacés par ce qui a été dit. Et malgré ça, il y a une ou deux personnes qui m'ont envoyé des messages en privé. Ça m'a pas... Bon, c'était très dispensable. Mais voilà, mais encore une fois, je répète, ce genre de backlash... Oui, d'ailleurs, petit détail. Les 4, 5... attends, combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Les 7 femmes dont je viens de parler, les 7 invitées que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'émission, elles ont toutes un point en commun, c'est que ce sont des femmes. Et j'ai jamais eu de backlash vis-à-vis du micro que j'ai pu tendre à un invité homme, ou en tout cas rien d'aussi violent. Il y a peut-être des gens qui sont pas fans de Jean-Marc Jancovici, mais bon, ça reste très poli dans leur retour. Mais donc ouais, j'ai vraiment la conviction que c'est ce dont Suzanne Feloudi parlait dans les années 90, c'est le backlash, quoi, finalement. Une question d'une auditrice très spéciale qui me demande: en quoi être autiste fait-il de toi un meilleur et ou un moins bon intervieweur qu'un neurotypique ? Formidable question. Alors, beaucoup de choses à unpack, beaucoup de choses à déballer dans cette question. Alors déjà, en amont, pendant la préparation de l'interview, moi je crois très fort en cette différence en termes de... cette différence vis-à-vis de la norme sociale, finalement. Ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des normes très arbitraires, des choses très décidées, voilà, dans la vie. Ok, telle chose, ça fonctionne de telle manière. Et finalement, personne ne remet ça en question. Un exemple de ça, ce serait, par exemple, dans ce qu'on pourrait appeler les rôles genrés, de dire « Ah, les jeux vidéo, c'est pour les garçons, le football, c'est pour les garçons, le maquillage, c'est pour les filles, et ainsi de suite. » Je ne dis pas qu'on est complètement indépendant, hein, parce que ce n'est pas le cas, mais on est un peu plus détaché de la norme sociale et un peu plus électron libre, pour dire ça comme ça. Et donc, ça me permet, je pense, de choisir des sujets, choisir des angles. Encore une fois, on en revient à cette question de bug dans la matrice, des angles un peu subversifs, des choses qui... On va remettre en question les choses vraiment bien ancrées dans la norme sociale. Et même, voilà, des sujets comme ce qu'on avait pu faire avec... Vincent de Corbiter, on parlait de l'individualisme, et je pense qu'il y a vraiment chez moi, dans ma démarche, ce côté un petit peu, voilà, on va disséquer le comportement des êtres humains dans notre société aujourd'hui, comprendre comment ça fonctionne, etc. Là où j'aurais tendance à penser qu'une personne non-autiste, j'aime bien parfois aussi le mot « aliste », une personne aliste aurait peut-être tendance à juste, de manière très intuitive, accepter... Le fonctionnement des gens, pour moi, c'est pas intuitif. C'est très cérébral, au contraire. Et là on touche à une autre question, qui est la question de l'empathie. Donc, pour rappel, hein, pour remettre les choses en contexte, les autistes ont évidemment tout plein d'empathie, mais plutôt de ce qu'on appelle l'empathie affective. Donc, ça va être les émotions des gens, la douleur que peut ressentir la personne à qui on s'adresse, la joie, etc. Voilà. Donc ça, ça se communique bien, pas de souci. Par contre, il y a l'autre empathie qui s'appelle l'empathie cognitive, où là, il s'agit plutôt de dire, si je raconte cette blague maintenant, est-ce que ça va être bien reçu ou est-ce qu'au contraire, ça va être une maladresse énorme ? Et puis, une fois qu'on a raconté la blague et qu'on voit la réaction sur le visage de son interlocuteur ou interlocutrice, il faut encore savoir l'interpréter. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette expression sur le visage ? Si je me mets dans les chaussures, si je me mets à la place de la personne à qui je parle, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Bon, ça, c'est l'empathie cognitive. Et là, je ne veux pas dire qu'on est nul, mais on est nul, on est archi nul. On est mauvais là-dedans. C'est difficile pour nous. Et donc, selon ça, tous les autistes sont chacun très différents. Mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne de nombreuses personnes autistes qui m'entourent, on va compenser cette difficulté-là par de l'intellect. On va réfléchir très fort, on va remuer nos méninges pour se dire on va assembler les pièces du puzzle pour se dire maintenant je pense que je pense que je peux déduire que il pense ça pour l'instant, que ma blague, ma plaisanterie a plutôt été bien reçue. Mais inévitablement, je me plante des fois. Et donc, de ce côté un peu cérébral de la façon dont j'interagis avec les gens, il y a peut-être ce côté, je dissèque un peu plus qu'une autre personne journaliste qui ferait ce que je fais. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, au moment de l'interview, ben, même chose. De par mon fonctionnement un peu différent, je vais sans doute, certainement, avoir tendance à poser les questions avec un angle assez particulier. Un truc que je fais tout le temps et qui marche pas spécialement bien, ça je dois le reconnaître, c'est demander à la personne, tiens, mais qu'est-ce qui est spécial chez toi ? Qu'est-ce qui explique que ce soit toi qui aies fait ça, ce travail, qui ait pris conscience de toutes ces choses-là, et pas une autre personne, finalement, qui te ressemblerait. Souvent, en fait, la question est hyper intrusive. Ça, j'ai fini par le comprendre. Par exemple, si je pose cette question-là à une militante féministe, ça peut tout à fait être en raison d'une oppression ou d'une violence que la personne a subie. Donc moi, je lui pose cette question-là, bon, elle n'a pas forcément envie de répondre la vraie vérité vraie, elle va avoir tendance à pas trop savoir quoi répondre ou à détourner un peu la question. Mais voilà, c'est la nature des questions que je vais poser change, la nature de l'angle, des sujets qui m'intéressent change également. Les auditeurs que je vais toucher, les auditeurs, les auditrices que ça va intéresser, vont avoir un autre profil, forcément. C'est pas tous, mais de nombreux auditeurs, de nombreuses auditrices qui m'ont écrit au fil des années, ben, en fait, sont autistes. La personne qui m'a posé cette question est autiste, évidemment, si vous ne l'aviez pas compris. Et c'est quelque chose qui m'émeut très fort. Je suis très content de pouvoir établir cette connexion-là avec des camarades autistes via ce podcast. Et un autre truc qui n'est pas directement lié à l'autisme, mais... Alors, il y a ce mot que j'aime pas trop, qui est comorbidité. C'est un mot qu'on emploie surtout dans le contexte du Covid. Et je rappelle, hein, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas écouté ces épisodes sur l'autisme, l'autisme, c'est pas une maladie. Comorbidité, morbus, ça veut dire maladie, donc c'est pas de ça dont il s'agit. Mais donc, ce qu'on appelle une comorbidité, ou je sais pas comment je peux dire ça, un truc qui revient régulièrement chez les personnes autistes, c'est d'autres traits neuroatypiques, notamment les troubles de l'attention. Et donc moi, j'ai ça. Et le truc dans lequel ça se... Enfin, il y a deux situations dans lesquelles ça se prononce particulièrement, c'est déjà les cours ex cathedra, genre quand j'étais à l'école ou à l'université, mais je ne pouvais pas bouffer l'information avec quelqu'un qui me parle non-stop face à moi. Avec les podcasts, je peux au moins faire pause et revenir en arrière, donc ça va. Mais là, ça allait pas du tout, ça me convenait pas du tout. L'autre truc, c'est pour la lecture. L'auditrice qui m'a posé cette question va peut-être un peu tomber de sa chaise, mais il faut savoir que je déteste lire, moi. Je dois lire des livres pour ce podcast. Donc, par exemple, récemment, j'ai pu lire... le livre de Jean-Marc Jancovici, ou le roman de Lucie Ronfaux, ou le livre de le génie lesbien de Alice Coffin, chose que j'ai fait. Dans certains cas, par exemple pour les livres de Jancovici, quand même de nombreux livres, donc je me suis permis de les lire peut-être un peu plus en diagonale. C'est un exercice sportif pour moi. C'est dur, quoi. Il faut que je prenne ma respiration, il faut que je me force. C'est pas quelque chose que je fais vraiment de manière intuitive. Et je peux d'ailleurs dire que 100% des livres que j'ai lus ces trois dernières années, je pense pas dire de bêtises en disant ça, 100% des livres que j'ai lus ces trois dernières années, c'était pour ce podcast. Parce qu'il y a vraiment cette pression de voilà, il faut que je sois prêt pour l'interview. Mais lire un livre spontanément pour le plaisir, non, non, non. Et donc, c'est une difficulté, je dirais, pour la préparation du podcast, puisque il y a... Si je n'avais pas ça, si je prenais du plaisir à lire et que je lisais des tonnes de livres chaque mois, peut-être que je pourrais interviewer des romanciers, des romancières, que je pourrais être beaucoup plus pertinent en tant que journaliste ou critique culturel, ou voilà, échanger avec des personnes dans ces, avec des artistes. Et en fait, non, je ne peux pas, parce que ça reste un effort pour moi, la lecture. Et donc, vous voyez, c'est pas vraiment de l'autisme, mais je mettrais ça dans le tas de mes particularités qui font que je suis peut-être, tu disais, meilleur ou moins bon intervieweur, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un point faible en ce qui me concerne. Et je parlais en début de podcast de... voilà, la question de la promouvoir le podcast, trouver de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices. Je pense que c'est aussi une difficulté pour moi, de manière générale, l'exercice de promotion, l'exercice de, je sais pas si on peut dire marketing, mais je suis très mauvais dans ma communication pour m'exprimer publiquement, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas quelque chose de très intuitif pour moi. C'est pas, voilà. Donc j'ai aussi des difficultés vis-à-vis de ça. Là, on s'éloigne un peu de la question qui était mes qualités, mes défauts en tant qu'intervieweur. Mais donc vraiment, ce que je retiens, c'est les angles, la nature de certaines questions que je peux poser, pas toutes. Hein. Il y a vraiment des interviews où je suis vraiment en mode relax, où c'est surtout je laisse l'invité dérouler son propos. C'est pas la majorité, heureusement, mais voilà. Et voilà vraiment ce truc de... Je pense, j'ai tendance à penser que les auditeurs, les auditrices autistes ont un truc qui... Enfin, je leur propose un contenu qui leur parle peut-être plus qu'à d'autres. Voilà, je pense que ça répond à la question. Autre question vis-à-vis de mes particularités personnelles. À quand un épisode sur les avancées sur le diabète avec soit des chercheurs, soit des médecins? Surtout en ce mois du diabète. Alors, pour remettre les choses un peu en contexte, cet auditeur avait vu quand je m'étais planté, quand je m'étais cassé la gueule à vélo, c'était en juin, il y a un an, donc c'était juin 2020, il avait vu sur une radio que j'avais postée sur Facebook un capteur qui était sur mon bras, et donc... Sur la radio, il a reconnu le capteur. Il a fait « Hey, c'est un truc de diabétique, ça !» Donc oui, j'en ai jamais parlé, en fait, parce que c'est pas le truc le plus intéressant, mais je suis diabétique de type 1. Et donc, déjà, je t'avoue que je ne savais absolument pas que c'était le mois du diabète. Pour juste un peu remettre les choses en contexte, je fais tout pour que ça m'occupe le moins possible ça me donne le moins de charge mentale possible, que ça occupe le moins possible mon esprit. Ça m'intéresse assez peu, je t'avoue. Y a des gens, des influenceurs, des personnes sur YouTube dont c'est toute la personnalité. Hein. Je me souviens qu'il y avait des chaînes YouTube, Diabetic Dana, où c'était moi je suis diabétique et je vais faire des reviews de. Alors, bon, c'est la situation très spéciale aux États-Unis vis-à-vis de. Les soins de santé, les trucs qu'on peut acheter, les industries pharma, etc. Mais voilà, elle faisait des reviews d'accessoires, de trucs qu'on peut employer quand on est diabétique. Moi, je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Et c'est vrai qu'on m'avait déjà... quand je discute avec quelqu'un, j'ai très souvent tendance à lui demander en fin de conversation « Hey, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne, un sujet qui t'intéresserait pour un podcast ou quoi ?» Là. Et un jour, on m'avait conseillé de parler du diabète. J'ai un peu du mal, et peut-être que vous allez me dire le contraire, vous qui m'écoutez maintenant, mais j'ai un peu du mal à trouver ça hyper fascinant, surtout en tant que vraiment sujet de société, un truc qui va toucher un peu tout le monde, etc. C'est vrai que c'est un mot qu'on emploie, enfin qu'on entend souvent dans les médias, dans le langage courant. Pas sûr que tout le monde comprenne exactement ce que c'est et comment ça fonctionne, le fait qu'il y ait deux types de diabète, etc. Mais je ne sais pas s'il y a un bug dans la matrice, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a un truc où on peut, un peu subversif, toucher à quelque chose, où les gens vont se dire « Waouh, j'y avais jamais pensé !» C'est finalement assez technique, c'est finalement assez... C'est plus un sujet d'émission pour matière grise sur la RTBF que pour moi, je pense. Un truc que je veux bien raconter cependant à ce sujet, c'est que Ben oui, donc ta question, c'était sur les avancées sur le diabète. Donc moi, je peux peut-être parler en tant que personne diabétique de les choses qui ont changé dans la façon de se soigner. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, et pendant des décennies, pendant très longtemps, il fallait très régulièrement se piquer le bout du doigt, et puis on saignait un petit peu, il fallait mettre dans une machine, et tout ça polluait énormément, il fallait toutes les tigettes, toutes les bouts d'aiguilles qu'il fallait recycler, etc. Ça polluait énormément. Mettre sa goutte de sang dans une petite machine pour voir un peu combien de milligrammes de glucose on avait, je crois, par décilitre de sang, c'est ça? Et en gros, est-ce que le niveau de sang, le niveau de glycémie est trop élevé ou trop bas, et ajuster en fonction de ça. J'étais très mauvais à ce moment-là. Genre, j'étais très mauvais pour être discipliné vis-à-vis de ça. Peut-être vis-à-vis de mes autres particularités de mon beau cerveau, je ne sais pas. Mais la grosse révolution, ça a été il y a combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait 3-4 ans, quelque chose comme ça, que il y a maintenant cette technologie de un petit, ben justement, c'est ce que l'auditeur a vu sur la radio, un petit senseur qu'on vient accrocher en haut du bras, et ça reste accroché là pendant 7 jours, c'est waterproof, etc., tout ça. Et en gros, ça mesure le sang en permanence. Et je devais juste prendre mon téléphone et le Enfin non, non, je vais revenir. Il fallait juste prendre son lecteur et scanner le petit lecteur, un peu comme quand on paye avec sa carte de crédit, sa carte de banque en paiement sans contact. C'est la même technologie, c'est du NFC. Et immédiatement, on voit non pas la mesure à un instant T, mais les 8 dernières heures en continu. Donc on voit si la ligne sur le graphique, elle monte, si elle s'accélère, si elle descend, etc. Et ça nous donne beaucoup plus d'infos et c'est beaucoup plus confortable à utiliser que se piquer au bout du doigt. Et un truc que j'avais fait, c'est que ça m'emmerdait encore de. Vous voyez, hein, j'ai un truc dont je n'ai pas parlé, c'est que j'ai une grande intolérance à la frustration. C'est un truc qu'on m'a. C'est pas juste moi qui ai décidé ça, hein, c'est une personne dont c'est le métier qui a repéré ça chez moi. Donc ça explique aussi un petit peu mon perfectionnisme et mon syndrome de l'imposteur et le fait que à l'issue d'un enregistrement de podcast, je suis toujours là à me dire ah non, j'ai pas fait assez bien, j'aurais dû faire ça en mieux, etc. Parce que je me compare forcément au truc idéalisé, au truc dont je rêvais, et donc je me compare à l'épisode parfait entre guillemets, et donc je suis forcément déçu et j'ai une intolérance très forte à cette frustration. Et donc, ça me frustrait aussi de devoir me déplacer avec ce lecteur, ce truc, c'est un petit Tamagotchi hein, qu'on doit passer en haut du bras. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai trouvé des applications non officielles sur GitHub, donc que j'ai compilé moi-même. Je les ai installées sur mon téléphone. Mon téléphone a un capteur NFC, comme tous les téléphones, comme tous les smartphones modernes. Et donc, je scannais mon bras, mon senseur avec mon téléphone. Et puis, tout le truc que je connectais allait sur mon serveur perso, donc pas sur les trucs, les services proposés par ce fabricant Big Pharma, tout ça. Et c'était vraiment, il y avait le côté je m'approprie les outils, les solutions pour me soigner. Et à partir du moment où je vais mettre ça en place. J'avais une bien meilleure visibilité sur ma situation. Mon diabète s'est nettement amélioré. C'est pas qu'il allait terriblement mal avant, mais c'était quand même une grande marge de progression. Donc ça m'a énormément aidé. Et depuis quelques mois maintenant, ils ont changé la version du senseur. C'est la version 2. Et maintenant, j'ai même plus besoin de scanner mon téléphone de scanner le senseur avec mon téléphone. Ça marche par Bluetooth, et donc là j'ai encore fait une autre bidouille où j'ai piraté l'application officielle et puis installé une autre application open source sur le côté, etc. Et donc maintenant, en fait, en permanence, je ne dois même plus scanner mon téléphone, en permanence les résultats sont collectés et envoyés sur mon serveur. Et puis, quand je vais voir mon médecin, je dois plus lui donner mon petit lecteur. Je dois juste lui dire, hey, non, tu peux aller sur l'URL là, que je te file. Et il va dessus et il voit un beau graphique qui donne mes résultats. Et c'est très moi, ça. C'est très Guillaume, ce truc de sortir des sentiers battus, faire un truc à ma manière pour dégager toutes les frustrations que je peux avoir vis-à-vis d'une certaine façon de faire. Mais donc, pour revenir à ta question, cher auditeur diabétique, je ne suis pas sûr de vouloir faire un sujet sur le diabète, sauf si j'ai, disons, trois personnes qui me disent que ça les intéresse follement et qu'elles argumentent un peu. Je peux tout à fait rajouter ça dans la liste des sujets que j'aimerais explorer. Et justement, qui aimerais-tu avoir comme invité dans les prochains épisodes? Quel sujet aimerais-tu aborder que tu n'as pas encore abordé? Alors, en termes de sujets, dans ce que j'ai noté dans ma longue liste de sujets que j'aimerais explorer, et encore une fois, je répète, hein, il faut que je trouve un invité, une invitée de qualité, un sujet qui m'interpelle pour des raisons un peu subversives, bug dans la matrice, j'explique ça très mal, mais soit. Et puis le bon angle. Parmi les sujets que j'ai listés, il y a les incels, donc ce sont ces communautés principalement en ligne qui vivent très mal leur célibat et qui transforment ça en une forme de masculinisme, une forme de misogynie, parfois même il y a eu des attentats, bon, c'est principalement un phénomène nord-américain, mais il y a eu des attentats à Toronto, il me semble, avec un gars qui a écrasé une dizaine de personnes, et quand on lui demandait pourquoi, c'était pour exprimer son mal-être, finalement, et protester à l'injustice de sa situation, etc. Enfin, voilà. Et par ailleurs, ce gars était... En fait, il y a la vidéo de son interrogatoire dans les bureaux de la police de Toronto, qui est dispo sur Internet. C'est très facile à trouver, c'est pas sur les sites louches, c'est sur le site de la CBC. On sent très clairement que, en fait, c'est un camarade autiste. Et d'ailleurs, il a été diagnostiqué au moment de son arrestation. Et pour moi, il y a non pas une équivalence, mais je m'interroge déjà vis-à-vis du phénomène incels de manière générale, tout ce qu'on pourrait dire vis-à-vis des communautés en ligne, la radicalisation, qu'est-ce que ça dit sur la situation de ces personnes-là. J'ai pas encore la réponse à ces questions, j'ai pas encore les questions non plus, puisque j'ai pas encore trouvé, malheureusement, toujours pas trouvé la personne qui serait pertinente pour parler de ça. Et donc je disais, oui, peut-être des liens, pas des généralités, mais je crois qu'on peut facilement tomber là-dedans quand on est une personne autiste qui n'a pas la chance d'avoir trouvé quelqu'un dans sa vie. Autre sujet que j'ai listé, c'est l'antisémitisme, un truc dont on parle tout le temps, mais finalement, l'explorer, tiens, mais d'où ça vient, comment se fait que ça perdure depuis 2000 ans quand même. Je ne sais pas si on connaît beaucoup d'institutions, beaucoup de croyances conspirationnistes qui durent depuis 2000 ans, c'est assez impressionnant. J'ai noté l'héritage colonial en Belgique, donc les fameuses statues de Léopold II, les tunnels, etc. Qu'est-ce qu'il en reste? Bon, c'est plus qu'une question de statues de tunnels, évidemment, mais voilà. J'ai noté les troubles de l'alimentation, donc par exemple les personnes qui sont boulimiques, anorexiques, etc. Pas seulement ces deux choses-là. J'avais une personne en tête pour parler de ça. Malheureusement, on n'est plus en contact. Donc, il faut que je trouve la bonne personne et il faut que je fasse le deuil de cette interview que je ne pourrais plus faire avec cette personne qui aurait été très intéressant à écouter. J'ai noté également la psychophobie, donc le fait que le fait d'avoir une maladie mentale, c'est perçu de manière très négative. Ça fait flipper les gens. On change de trottoir. C'est pas quelque chose qui est accepté dans notre société. Et d'ailleurs, les gens qui souffrent même de pathologies ont tendance à, pour cette raison-là, ne pas du tout se faire soigner et au contraire aller emmerder les gens sur Twitter, n'est-ce pas, pour caricaturer un brin mon propos. J'ai noté également les baptêmes étudiants. Il me semble que là, il y a un petit bug dans la matrice, un petit truc qui est non dit, quelque chose à explorer à ce niveau-là. Mais encore une fois, je n'ai pas l'angle, je n'ai pas l'intervenant encore. La question de l'ultra-droite, de, par exemple, bah voilà, hein, ce que j'appellerais CNews et Éric Zemmour en France, la façon dont ces gens communiquent, la façon dont ces discours se normalisent de manière générale, et en particulier ici en francophonie. J'ai noté les transidentités. Donc ça, c'est un sujet où je m'estime mais complètement ignorant. Et c'est pas... les podcasts, ça peut être souvent une opportunité pour moi d'en apprendre plus sur toutes ces différentes questions. Et j'ai noté aussi, et là, ça va peut-être faire grincer quelques dents, mais j'ai aussi noté la question du tabac, du tabagisme. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne commence à fumer ? Quelle est, psychologiquement, comment ça marche ? Bon, c'est un sujet qui m'intimide aussi un petit peu, parce que je me doute bien qu'il y a un paquet de personnes qui fument, qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas forcément envie d'entendre un podcast qui va un peu parler de ça d'un point de vue psychologique, leur rappeler que c'est très mauvais pour la santé, etc. Je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup ces personnes-là, ou peut-être qu'au contraire, ça va les aider à arrêter, je ne sais pas. Mais bon, ça, c'est juste une idée que j'ai notée. Ensuite, parmi les personnes que j'ai notées comme profil, donc là, c'est l'inverse, ça va plutôt être des gens bien connus. J'ai noté Caroline Désir, donc, qui est ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc en Belgique francophone ici. J'ai noté Sophie Wilmès, donc ça va certainement se faire aussi. Axel Clermans, qui est professeur à l'ULB et qui est neurologue, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais il se spécialise en tout cas en ce qui concerne la notion de conscience. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'être conscient, d'avoir conscience du fait qu'on est en vie, de se reconnaître quand on se regarde dans le miroir. Quelques autres surprises que je ne vais pas encore dévoiler maintenant. Et je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous l'avez fait. Et pas de souci si vous ne l'avez pas fait. Et si vous ne l'avez pas fait, vous ne m'entendez pas m'adresser à vous. Il est temps que j'aille dormir. Je vous dis à très bientôt. Dans 2 semaines, je recevrai Jacques Van Rilard, qui est professeur ou retraité de psychologie à la KUL et à l'UCL. Et on va parler avec lui de psychanalyse et de pourquoi c'est de la grosse merde. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Salut, salut.